Tus.
Il faut cultiver sa bonté sans se laisser décourager. C'est l'appel du Saint-Père hier lors de l'audience générale. Le pape qui a également fait part de son inquiétude quant au conflit en cours en Éthiopie. Pour la première fois en 12 ans, Benjamin Netanyahou est écarté du pouvoir. C'est une page de l'histoire qui se tourne en Israël. Nous retrouverons notre correspondant à Tel Aviv. Puis direction le sud de l'Angleterre, en Cornouailles, où s'est clôturé le sommet du G7. Quels engagements ont été pris lors de ce sommet, marquant le retour des États-Unis sur la scène internationale? Réponse à suivre. Également dans ce journal, la persécution des opposants politiques qui continue au Nicaragua. Puis dans notre dossier de la rédaction, retour sur la fin de l'opération française Barkhane dans le Sahel. Une fin, nous l'entendrons, très progressive.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Le bien grandit toujours de manière humble. Les mots sont du pape François hier lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Le Saint-Père qui est revenu sur la parabole de Jésus dans l'évangile de Saint-Matthieu, où il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde et a invité les fidèles à ne pas se décourager devant les fruits du bien qui ne font pas de bruit. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Jésus compare le royaume de Dieu à la graine de moutarde, c'est-à-dire la plus petite graine qui existe. Pourtant jetée en terre, elle grandit jusqu'à devenir le plus grand arbre. C'est ce que fait Dieu, a expliqué le pape. Parfois, le bruit du monde ainsi que les nombreuses activités qui remplissent nos journées nous empêchent de nous arrêter, de voir comment le Seigneur conduit l'histoire. Pourtant, a-t-il dit, l'évangile nous l'assure, Dieu est à l'œuvre comme une petite graine bonne qui germe silencieusement et lentement. Même si la semence peut sembler petite, tout ce qui est bon appartient à Dieu et donc humblement porte lentement du fruit, a poursuivi le Saint-Père. Par cette parabole, a-t-il souligné, Jésus veut nous donner confiance car dans de nombreuses situations de la vie, il peut arriver que nous nous décourageons parce que nous voyons la faiblesse du bien par rapport à la force apparente du mal. L'Évangile nous demande donc de porter un nouveau regard sur nous-mêmes et sur la réalité. Il nous demande d'avoir des yeux plus grands qui savent voir au-delà, surtout au-delà des apparences, a dit François. Une attitude ô combien importante pour sortir de la pandémie, a-t-il rappelé. Il faut reconstruire et recommencer avec patience et constance. Même dans l'Église, les mauvaises herbes de la méfiance peuvent prendre racine, surtout lorsque nous sommes témoins de la crise de la foi, encore dit le pape. Mais il ne faut pas oublier que les résultats des semailles ne dépendent pas de nos propres capacités, mais bien de l'action de Dieu. C'est à nous de semer avec amour, engagement et patience, car avec Dieu, même dans les sols les plus secs, il y a toujours de l'espoir, de nouvelles pousses, a conclu le Saint-Père.
Olivier Bonnel. Après la prière de l'Angélus, le Saint-Père est revenu sur la situation humanitaire dramatique dans le nord de l'Éthiopie, dans la région du Tigré, où plus de 350 000 personnes sont touchées par la famine selon les Nations Unies, dont 30 000 enfants. Le pape demande que les violences cessent immédiatement et que l'aide humanitaire puisse arriver sur place. Autre sujet abordé hier par le pape, les naufrages en mer Méditerranée. La mer Méditerranée est le plus grand cimetière d'Europe, a-t-il regretté. Tandis qu'hier, l'épave d'un navire dans lequel plus de 800 réfugiés sont morts noyés en 2015 revenait symboliquement en Sicile pour être exposée et devenir un lieu de mémoire. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Israël tourne la page de l'ère Netanyahou. Hier, le Parlement a voté la confiance au nouveau gouvernement emmené par Naftali Bennett et Yair Lapid, une coalition de 8 partis allant de la droite nationaliste à la gauche et qui pour la première fois dans l'histoire du pays inclut une formation arabe. Les précisions de Lucas de Villepin.
Jusque tard dans la soirée, des milliers d'Israéliens se sont réunis sur la plus grande place de Tel Aviv pour fêter la fin de 12 années de suite de règne de Benjamin Netanyahou. Un peu plus tôt, les députés ont voté leur confiance au gouvernement d'union de Naftali Bennett qui devient Premier ministre pour les deux prochaines années. Devant la Knesset, le leader de la droite nationaliste a promis qu'il ne laissera jamais l'Iran obtenir l'arme nucléaire et qu'il représentera tous les Israéliens. Un discours plusieurs fois interrompu par les cris et les insultes de députés de droite qui l'ont accusé de trahir son camp. Car c'est en tandem avec le centriste Yair Lapid que Naftali Bennett gouverne désormais. Leur coalition comprend trois partis de droite, un du centre, deux de gauche et pour la première fois de l'histoire d'Israël, un parti arabe, la formation islamiste Ram de Mansour Abbas. De son côté, Benjamin Netanyahou, nouveau chef de l'opposition, a décrit ce gouvernement comme faible, incapable de résister aux pressions internationales et a promis qu'il serait bientôt de retour. Lucas Deville, Pantel Aviv, Radio Vatican.
Week-end de vaccination marathon au Liban. 40 000 doses ont été administrées ces deux derniers jours. Les personnes de plus de 55 ans pouvaient se rendre sans rendez-vous dans les centres de vaccination. Selon le ministère de la Santé, environ un Libanais sur six a reçu une première dose du vaccin. Clôture hier soir du sommet du G7 en Cornouailles, dans le sud de l'Angleterre. Un sommet marqué par le retour des États-Unis à la table du multilatéralisme. Les sept pays alliés, qui représentent près de la moitié du PIB mondial, se sont notamment engagés à agir de concert contre la pandémie et pour lutter contre le réchauffement climatique. À Londres, Jean Jaffré.
Face aux appels à la solidarité, les dirigeants du G7 ont convenu de donner 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid d'ici la fin 2022. Cela porte à 2 milliards les engagements totaux depuis le début de la crise sanitaire. Le G7 a aussi confirmé sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ces dirigeants prévoient de signer un chèque de 2 milliards de dollars pour accompagner la transition verte dans les pays défavorisés. Selon les ONG, ces promesses ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sur l'insistance de Joe Biden, le comité final enjoint le gouvernement chinois à respecter les droits humains dans le Xinjiang, où la minorité ouïghour est persécutée, ainsi qu'à Hong Kong. Enfin, Boris Johnson n'a pu éviter que l'on parle du Brexit. Les trois dirigeants européens, membres du G7, ont rappelé qu'il avait signé l'accord de divorce de l'Union européenne, un traité international. Le Royaume-Uni est dans l'obligation d'effectuer des contrôles douaniers et sanitaires sur les marchandises et produits alimentaires transitant entre l'île de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Rester dans le marché unique. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
Autre rendez-vous stratégique des grandes puissances, le sommet de l'OTAN s'ouvre ce lundi. Le président américain est arrivé hier soir à Bruxelles. Comme le G7, le sommet de l'OTAN sera marqué par les retrouvailles entre l'Amérique et ses alliés. À suivre également la position de la Turquie, critiquée par plusieurs membres de l'organisation du traité Atlantique Nord. Nous y reviendrons dans notre journal de 13h. Les Suisses refusent l'interdiction des pesticides de synthèse. Ils l'ont clairement dit hier lors d'un référendum sur le sujet, à 63% contre l'interdiction de ces pesticides d'ici 10 ans. En revanche, les textes donnant au gouvernement des compétences supplémentaires pour lutter contre la pandémie ont été adoptés par la population helvétique. Nouvelle vague d'arrestations d'opposants hier au Nicaragua. 5 dirigeants connus de la dissidence sandiniste ont été arrêtés par la police et certains placés en détention. Ils sont accusés de divers crimes par un régime qui n'en finit pas de museler toute opposition. Adélaïde Patrignani.
Oui Marine, c'est le parti UNAMOS qui s'est retrouvé hier dans le viseur de la police nicaraguayenne. Son président, son vice-président et deux dirigeantes sont accusées d'avoir porté atteinte à l'indépendance, à la souveraineté et à l'autodétermination de leur pays. Anciennement connu sous le nom de Mouvement de Rénovation Sandiniste, UNAMOS est l'un des principaux groupes d'opposants au président Ortega. Ces arrestations interviennent après l'adoption en décembre d'une loi controversée, une loi qui punit de peine de prison les personnes encourageant une intervention étrangère au Nicaragua. Elles surviennent aussi à quelques mois de la présidentielle. Le 7 novembre prochain, Daniel Ortega briguera un quatrième mandat consécutif et pour le moment, il accentue sa politique de répression. Depuis le début du mois, une douzaine de dirigeants de l'opposition ont été arrêtés, dont 4 candidats à l'élection présidentielle. La responsable de la diplomatie américaine pour les Amériques, Julie Chung, a qualifié sur Twitter d'arbitraire ces nouvelles arrestations. Elle a appelé les pays membres de l'Organisation des États américains à envoyer un signal clair au gouvernement Ortega. Et ce sera peut-être le cas demain à l'occasion de la session de l'OEA consacrée justement à la crise au Nicaragua.
Merci Adélaïde Patrignani. La semaine dernière, l'église du Nicaragua appelait une nouvelle fois le président Ortega à la libération de ses prisonniers politiques. On votait ce samedi en Algérie pour des élections législatives anticipées et alors que les résultats officiels ne sont pas encore sortis, les islamistes revendiquent leur victoire. Profitant du très grand taux d'abstention, ce scrutin était en effet boycotté par le mouvement Irak et par une partie de l'opposition. Dans le nord-est de la RDC, l'état de siège n'a pas de limite dans le temps, annonce hier du président congolais lors d'une visite à Goma. Félix Tshisekedi entend éradiquer la violence de la centaine de groupes armés qui torturent la région. Et de passage à Goma, le président congolais a également promis aux dizaines de milliers de personnes déplacées à cause de l'éruption du volcan le mois dernier, un retour progressif chez eux. Dans notre dossier ce matin, retour sur la fin de l'opération française Barkhane dans le Sahel, annoncée jeudi dernier par le président Emmanuel Macron. Cette décision ne signe pas pour autant la fin de l'engagement militaire de la France dans la région, initié il y a 8 ans avec l'intervention au Mali. Le président français a évoqué en effet une transformation profonde de cette présence, voire un changement de modèle, en misant par exemple sur une mobilisation plus internationale, notamment européenne, sur le terrain. Barkhane, aujourd'hui, c'est 5100 soldats déployés dans une région désertique de 4 millions de kilomètres carrés. Une région instable, gangrénée par les trafics en tout genre et les attaques de groupes djihadistes. Ni défaite, ni victorieuse, la France s'y enlise dans une guerre interminable et très coûteuse. Roland Marchal est chercheur au CNRS basé à Sciences Po Paris. Il revient avec nous ce matin sur les raisons conjoncturelles et structurelles de cette décision française. Une décision dont l'application sera progressive et étalé dans le temps.
Ce départ de Barkhane va prendre du temps et il va être étalé suffisamment longtemps pour que l'élection présidentielle française ait lieu. Donc, si vous voulez, ça ne sera sans doute pas achevé avant la fin 2022, peut-être même début 2023. Et on peut penser qu'il y aura de nombreuses relectures de ce discours et accommodements avec les affirmations qui ont été prononcées par le président de la République. De plus, ce qui est envisagé par le chef de l'État, même si ça me paraît relativement irréaliste, c'est la montée en puissance d'une force européenne avec un contingent français significatif. Et comme toujours, lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, les Français occupent très souvent plus de 50% des postes. Et puis, une action accrue dans la formation des forces spéciales et des armées au niveau sahélien pour les pays qui le voudraient.
Pourquoi avoir décidé, presque de manière abrupte, de mettre fin à la force Barkhane, même si ce sera étalé dans le temps?
Écoutez, alors il y a plusieurs questions. Depuis quelques semaines, depuis la mort d'Idriss Déby, on est allé de Garib en Silla, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de pouvoir à N'Djamena, bon, qui est un coup d'État militaire. Puis on a eu le coup dans le coup au Mali. Il y a eu une tentative de coup en Guinée. Ça va pas très bien au Niger. Donc les Français ont eu le sentiment qu'ils allaient s'enfoncer. Ça, c'est un peu la conjoncture. Sur le plus structurel, bon, Macron, si vous voulez, a hérité de l'opération Barkhane. Déjà en 2017, il savait que cette opération, disons, était une contradiction, c'est-à-dire qu'elle allait gagner toutes les batailles et perdre la guerre. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a toujours eu une certaine tentation d'Emmanuel Macron de réduire l'importance de cette opération qui est très chère et qui, de plus, ne pourra pas gagner. Je crois qu'une des choses qui l'a profondément irrité, c'est le fait que les Français combattent des mouvements que le gouvernement français qualifie de djihadistes, mais qu'en même temps, au Mali et au Burkina Faso, les opinions publiques, les organisations de la société civile, mais aussi les appareils d'État, ont commencé à faire la différence entre les différents groupes et estiment que certains d'entre eux sont en fait disponibles pour un dialogue politique. Et donc la logique de cette opération, elle est donc de fait remise en cause par les États sahéliens.
C'est une manière donc de placer aussi tous ces gouvernements face à leurs responsabilités pour qu'ils puissent trouver une solution politique à ces conflits.
Ma réponse est plutôt non, enfin ou un oui, mais il y a deux choses quand même qui manquent. La première, c'est on ne tire aucun bilan de l'opération Barkhane. Et l'opération Barkhane en France et en Europe s'est présentée comme une opération qui a tué un certain nombre de responsables djihadistes importants. Mais on oublie de mentionner le reste. Le reste, c'est aussi les dysfonctionnements de Barkhane, les dommages collatéraux. Il y aurait une évaluation à faire de Barkhane qui n'est pas simplement, disons, la perception du gouvernement français. Et de l'autre côté, si vous voulez, on dit aux États sahéliens, prenez vos responsabilités, mais vous n'avez pas le droit de discuter. C'est quand même ça qu'il faut dire. Ces groupes djihadistes sont malgré tout des groupes djihadistes sahéliens, avec en fait des agendas qui sont essentiellement locaux. La nécessité absolue, évidemment, c'est la reconquête du territoire, mais c'est aussi la reconstruction d'une légitimité nationale. Or, ce qu'on voit dans ces pays-là, c'est que la crise, elle n'est pas simplement une crise liée à des groupes djihadistes, c'est aussi une crise de légitimité de l'État pour des raisons de marginalisation sociale ou économique de certaines communautés et aussi de mauvais comportements des fameuses armées qu'on entraîne depuis l'indépendance, il faut aussi le dire, qui ont sérieusement dysfonctionné vis-à-vis de leur propre population.
Voilà, interrogé par Xavier Sarthe, Roland Marchal, chercheur au CNRS, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une belle journée et une très bonne semaine.